Bienvenue à tous donc pour cette le bruit va s'arrêter dans quelques instants. Pour cette huitième séance des séminaires figure du juge, que le séminaire que le Centre de droit public organise depuis le mois d'avril dernier dans le cadre d'un programme de recherche collective mené à la faculté de droit sur le juge, l'action du juge, les représentations de cette action. Alors, ce séminaire a pour objectif d'interpeller des spécialistes de diverses disciplines ou de diverses traditions, de divers types de savoirs, pour leur demander de nous livrer une figure ou une représentation du juge qui serait propre, soit ou des représentations du juge qui seraient propres soit à cette tradition, soit à cette discipline. Et puis un intervenant d'une autre discipline qui n'est en général pas du tout spécialiste de la question qui est traitée, mais qui peut l'avoir envisagée dans sa propre discipline ou dans son propre parcours sous un autre angle, sollicité pour intervenir, lancer le débat. Et comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi le séminaire depuis le début, il y a un débat ensuite et vous êtes libre de poser des questions ou de faire des suggestions. Alors cette huitième séance, on a voulu la consacrer à ce que j'appellerais de façon vraiment très raccourcie une approche plus historique de la figure du juge, et en particulier à propos d'une période de l'histoire que j'appellerai, mais peut-être l'orateur corrigera, principalement au Moyen-Âge. Alors, les questions, diverses questions seront traitées sans doute dans cette représentation. Le rapport à Dieu, le rapport au sacré, le rapport à la vérité, qui sont centraux de ces rapports dans la représentation du juge, dans l'évolution de cette représentation. Et les vocations de ces dimensions sont évidemment aussi importantes pour comprendre la réminiscence de ces rapports au sacré ou à Dieu ou à la transcendance dans nos propres représentations contemporaines du juge, de la justice ou même du droit. Alors notre invité de ce soir, Robert Jacob, d'abord je le remercie beaucoup de venir parce que on en parlait juste avant d'arriver ici, il fait lui-même des navettes entre différentes villes européennes et donc est souvent dans le train avec des valises, donc c'est pas toujours facile de le capter. Et puis par ailleurs, il est à la fois juriste et historien, il a, comme je le disais, au moins deux pieds, peut-être qu'il en a six, mais il a au moins un pied en Belgique et un pied en France. En France puisqu'il est directeur de recherche au CNRS, et en Belgique puisqu'il enseigne l'histoire du droit à l'Université de Liège et aussi à Saint-Louis, si je ne m'abuse. Alors il est l'auteur de nombreuses études sur la justice et sur le juge, et il est l'auteur, d'après mes informations, d'un livre qui va paraître donc en mars aux presses universitaires de France et qui, dont s'inspire la conférence d'aujourd'hui, et je vous en indique la référence pour ceux qui voudraient s'y référer, qui s'intitule « La grâce des juges, l'institution judiciaire et le sacré en Occident ». Et pour lui répondre, nous avons invité Thomas Berns, qui est philosophe et qui est professeur à l'ULB, spécialiste de philosophie politique et juridique, mais aussi historien de la philosophie, en particulier de la Renaissance, et plus particulièrement encore peut-être de Machiavel, sur lequel il a fait sa thèse de doctorat, mais il y a quelques années maintenant. Excuse-moi. Voilà, je vous cède la parole tout de suite. Vous avez tout le temps qui vous est nécessaire pour faire votre exposé. Puis Thomas prendra la parole et puis... Juste pour vous dire, la prochaine séance a lieu au mois de mars. Et c'est une séance, si je ne me trompe pas, qui est consacrée à la figure du juge dans la Grèce antique.
Oui, c'est ça.
C'est le 25 mars, hein.
Je pense.
Ça s'appelle le juge, un citoyen idéal. Donc c'est une interrogation sur... la fonction de magistrat dans la citoyenneté grecque.
Et donc ce sera à nouveau une séance plutôt historique.
Plutôt historique, mais alors pour le coup, oui, d'une tout à fait autre époque, enfin je pense sous un angle d'approche assez différent.
C'est qui?
C'est Aude Kassler.
Mais merci beaucoup Julie pour cette présentation qui me dispense d'ailleurs d'une bonne partie de l'introduction que j'avais envisagée. Donc effectivement, il s'agit de présenter le résultat de recherches qui sont menées depuis longtemps. Alors dans le champ de l'histoire médiévale, mais pas exclusivement, aussi dans le champ de l'histoire comparée et de l'anthropologie comparée d'ailleurs de manière très très large. Recherche sur les rapports entre le juge et le sacré. Donc question évidemment, question immense pour laquelle il faut essayer de tracer quelques points d'ancrage, quelques voies nécessairement, on ne peut pas baliser l'ensemble. Le sacré judiciaire, disons, le rapport entre la justice et le sacré, c'est un objet qui n'est pas usuel, je crois. Il n'est pas usuel pour les juristes, il ne l'est pas non plus pour les théoriciens du droit, il reste marginal et il l'est peut-être encore moins pour les historiens. C'est un objet insolite parce qu'il amène à croiser des choses qui seraient disjointes. Je prends deux questions aussi différentes que l'indépendance du juge, l'autonomie du juge par rapport au pouvoir politique d'une part. Et la question de ce que représente la vérité judiciaire, bon, mais ce sont deux choses qu'en faculté de droit on disjoint. Il y a d'un côté ce qui relève du droit constitutionnel, de l'autre côté ce qui relève de ce qu'on appelle le droit de la preuve. Si on prend l'angle d'attaque du rapport au sacré, on s'aperçoit assez rapidement que ces questions deviennent très vite conjointes. Alors effectivement, les recherches que je mène ont mené sur un premier livre qui est paru en Chine et en langue chinoise. C'est une aventure un peu particulière, mais des juristes chinois se sont intéressés à mes travaux en disant mais c'est très intéressant. On essaie de comprendre pourquoi la fonction de juger est définie de manière aussi différente dans notre culture à nous que dans votre culture à vous occidentaux. Est-ce qu'on peut trouver un langage commun pour la construction de l'état de droit. Bon, donc le langage commun, en tout cas le dialogue, on l'a engagé sur ce terrain-là. Et Julie vient de le dire, il y aura un livre français. Alors donc, j'espérais même qu'il serait paru aujourd'hui et que je pourrais déjà le présenter, mais la sortie de presse a été un peu décalée. Donc ce sera effectivement pour le mois de mars. Alors je vais vous présenter quelques grandes idées, quelques grandes conclusions de cette démarche, avec d'ailleurs cette circonstance que ce soir je m'abstiendrai de démontrer ce que j'avance. Je m'abstiendrai de démontrer ce que j'avance parce que précisément j'ai écrit un livre de 500 pages pour apporter cette démonstration. Donc ceux que ça intéresse et qui veulent vérifier iront voir le texte. Mais je vais me limiter maintenant à un certain nombre de conclusions très générales. Je dirais même que je vais peut-être passer à une des dernières conclusions du travail. Et je vous propose de le faire à partir d'un petit texte qui est déroutant. Qui n'est pas du tout un texte historique et qui n'est pas un texte juridique non plus. C'est l'extrait d'un roman de Leonardo Sciascia, le contexte. Peut-être plus connu d'ailleurs par le film qu'on en a tiré, Cadavres exquis, Cadaveri eccellenti, peut-être plus connu que par le film que par le roman lui-même. Et il y a dans ce film et dans ce roman une scène qui m'accroche. Hein. Donc l'intrigue du roman, c'est on est dans un pays imaginaire. Un pays imaginaire dont on comprend évidemment très vite qu'il ressemble beaucoup à l'Italie des années 70, l'Italie des années de plomb. On est dans un pays imaginaire où il y a des meurtres en série de magistrats, une série de magistrats qui sont abattus, et le héros du roman, qui est le commissaire Rogas, Lino Ventura dans le film, qui mène l'enquête et qui aboutit à la conclusion, alors que par ailleurs tout le monde pense que ce sont des crimes politiques, il aboutit à la conclusion que ça doit être la victime d'une erreur judiciaire qui cherche à se venger. Et comme il finit par pressentir de quelle erreur judiciaire il s'agit, et donc qui serait l'auteur de tous ces crimes, et quels sont les magistrats menacés, il en conclut qu'une des victimes suivantes sur la liste serait le président de la Cour suprême de ce pays imaginaire. Et donc, il va trouver le juge et il essaye de le mettre en garde en lui demandant de prendre des mesures de protection. Mais assez curieusement, il se heurte à un refus. Le président de la Cour suprême refuse absolument toute protection pour un motif très curieux. Il lui prétend que l'erreur judiciaire n'existe pas, que c'est absolument impossible et que donc l'inexistence de l'erreur judiciaire fausse complètement les déductions du commissaire Rogas. Alors, pourquoi l'erreur judiciaire n'existe-t-elle pas? Eh bien, le juge s'engage dans une comparaison ou une assimilation qui est a priori tout à fait curieuse entre l'acte de juger et l'acte de dire la messe, très exactement ce qui se trouve au centre de la messe, c'est-à-dire la transsubstantiation. Donc prenons par exemple la messe, le mystère de la transsubstantiation. Le pain et le vin devenant corps, sang et âme du Christ. Le célébrant peut être indigne dans sa vie, dans ses pensées. Le seul fait qu'il ait reçu les ordres a pour effet qu'à chaque célébration, le mystère s'accomplit. Jamais, je dis bien jamais, il ne peut arriver que la transsubstantiation ne se produise pas. Tout de même, un juge, quand il célèbre la loi, la justice ne peut pas ne pas se révéler, ne pas se transsubstancier, ne pas s'accomplir. Bien entendu, le juge peut se tourmenter, se ronger, se dire « tu n'es pas digne, tu es la proie de toutes les misères humaines, tu cèdes à tes instincts, tu es tout plein de pensées troubles, tu es sujet à toutes les faiblesses et à toutes les erreurs ». Mais dans le moment où il célèbre la justice, plus rien de cela pour le juge, et encore moins après. Vous imaginez-vous un prêtre qui, après avoir célébré la messe, se dirait « qui sait si cette fois encore la transsubstantiation s'est accomplie ?» Il n'y a aucun doute, elle s'est accomplie, sûrement, et j'ajouterai inévitablement. Naturellement, je ne suis pas catholique, je ne suis même pas chrétien. Naturellement, fit en écho Rogas, et en vérité, il n'en était pas surpris. Le président ressentit la déception et l'agacement de l'illusionniste qui, aussitôt après son tour de prestidigitation, voit surgir un gamin pour lui dire qu'il a compris le truc. Avec une pointe d'hystérie dans la voix, il affirma « L'erreur judiciaire n'existe pas ». Pourtant, les instances successives, la possibilité des recours, des appels, objecta Rogas. Suppose, pensez-vous, la possibilité d'erreur. Il n'en est rien. Il suppose seulement la possibilité d'une opinion que l'on peut appeler laïque sur la justice, sur l'administration de la justice. Or, quand une religion commence à tenir compte de l'opinion laïque, elle l'est bien morte, même si elle ne le sait pas. Et il en va de même pour la justice, pour l'administration de la justice. Alors, texte paradoxal, le juge est un peu fou, légèrement hystérique, dit Chachia, et on peut même dire qu'il est hérétique deux fois. Hein. Il est hérétique d'un point de vue religieux, parce qu'effectivement, d'un point de vue religieux, il met le corps du Christ là où le corps du Christ n'a rien à faire, les sacrements et la justice sont deux choses bien, bien différentes. Et hérétique aussi d'un point de vue juridique, puisque tout le système, c'est ce que Rogas lui fait observer, tout le système des recours, des appels, de la vérification de l'instruction par une chambre d'instruction supérieure, etc., tout le système repose, par principe, sur le postulat que l'erreur judiciaire existe et qu'il faut toujours ménager la possibilité de la corriger. Bon, pourtant, je vais avancer l'idée que cette position paradoxale du juge de Romans est une clé. C'est une clé de compréhension, c'est une clé de compréhension de l'histoire de la vérité judiciaire en Occident, et c'est une clé de compréhension de ce phénomène central, à la fois central dans l'histoire et puis central dans les préoccupations du comparatiste aujourd'hui, ce phénomène central qui est la séparation des cultures occidentales en deux branches, la common law d'une part et... Alors, ce que les Anglais appellent civil law, je dirais romano-canonique de préférence à romano-germanique parce que les Germains n'ont vraiment rien à faire, rien eu à faire là-dedans. En revanche, le système de procédure romano-canonique est bien une création de l'Église. Alors, comment est-ce que cette confrontation du sacrement, de la vérité du sacrement et de la vérité judiciaire, comment peut-elle constituer une clé de compréhension de l'histoire? Ben, pour l'exposer, je dois avancer quatre points. Premièrement, l'ordalie est une chose sérieuse, c'est une chose à prendre au sérieux. Deuxièmement, le jugement de Dieu n'est pas exactement une ordalie, ou plus précisément, ce n'est pas une forme indifférenciée d'ordalie, c'est une forme d'ordalie propre, absolument spécifique à la chrétienté occidentale. Troisièmement, le jugement de Dieu, comme ordalie spécifiquement occidentale, doit se comprendre, doit s'analyser à la lumière de la théologie des sacrements. Et enfin, quatrième point, ce jugement de Dieu a un rôle matriciel parce qu'il constitue précisément ce qui est le point de départ de la diffraction entre les deux branches des cultures juridiques européennes, la common law d'Angleterre d'une part et procédure romano-canonique civiliste d'autre part. Alors, prendre l'ordalie au sérieux. Bon, chacun a entendu parler de ces procédures étranges qui avaient cours au temps jadis, dont certains savent peut-être qu'elles ont encore cours aujourd'hui ailleurs. Établir la vérité judiciaire par une opération qui relève de la magie ou de la prouesse exceptionnelle, prendre un fer rouge à pleine main, plonger la main dans un chaudron d'eau bouillante, absorber des substances toxiques, absorber du poison, éventuellement se battre en duel. Tout le monde sait que cela a existé, et le fait qu'on puisse établir la vérité judiciaire en procédant de la sorte a toujours provoqué chez les juristes et chez les historiens une perplexité profonde. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-il possible que cela fonctionne? On essaye de pénétrer dans ce qu'on appelle parfois des mentalités magico-religieuses. Alors des mentalités magico-religieuses, ça postule déjà l'idée qu'elles seraient fondamentalement différentes de notre belle rationalité acquise par la modernité occidentale. Dans ces mentalités magico-religieuses, on cherche l'explication du côté de mécanismes du type il y aurait un sérum de vérité par exemple, ça fonctionnerait comme un sérum de vérité, c'est-à-dire celui qui se sent au fond coupable serait en position d'infériorité, aurait peur en raison de la croyance partout répandue en la justice divine, aurait peur à l'idée de prendre le fer ou de mettre la main dans l'eau bouillante ou de se battre en duel, alors qu'au contraire celui qui se sait innocent, celui qui est sûr de son bon droit, aurait une espèce d'avantage dans l'exécution de l'épreuve. C'est assez curieux, je veux dire, on se sent dans son bon droit. Est-on nécessairement le plus fort au combat judiciaire ou va-t-on aller de gaieté de cœur saisir un fer chauffé au rouge, ça peut tout de même laisser sceptique. Mais enfin, un livre assez classique comme celui que Henri Lévy-Brulle a consacré à la preuve judiciaire est entièrement fondé sur cette idée. C'est-à-dire qu'il y a une preuve rationnelle ou il y aurait une preuve rationnelle qui est la nôtre et une preuve nature irrationnelle qui est la leur, celle des mentalités magico-religieuses, et qui fonctionne en réalité comme un calque de la preuve rationnelle, elle essaye d'arriver au même type de vérité judiciaire, mais elle essaye d'y arriver par d'autres moyens, prétendument, c'est Lévi-Brulle qui parle, prétendument mieux adaptés aux mentalités de la religiosité primitive de ces sociétés. Ce qui signifie que le juriste peut toujours éprouver cette attitude de perplexité et de fascination. Il reste que l'étude de ce qui se passe chez eux n'a aucun intérêt pour savoir ce qui se passe chez nous, puisqu'il y a une cloison étanche, il y a entre l'un et l'autre la barrière qui sépare l'irrationnel du rationnel. Alors, ce que j'avance, c'est qu'il faut prendre l'ordali au sérieux, c'est-à-dire constater que c'est un phénomène qui est partout répandu, donc ce n'est pas uniquement une caractéristique de l'Occident médiéval, mais on le trouve dans un très grand nombre de cultures, au moins sur tout le continent eurasiatique, donc on a des formes indiennes, des formes chinoises, beaucoup d'exemples également dans le monde arabe, et puis surtout pas mal de données africaines. C'est un mode de règlement des litiges qui est très répandu, c'est un mode de règlement des litiges qu'on peut juger archaïque, mais qui est cependant toujours actuel. En Afrique, on établit toujours des vérités judiciaires en saisissant des anneaux de fer, par exemple, dans des cuves d'huile non seulement bouillante, mais brûlante, dans ce cas-là. Comme professeur de droit, si vous avez des étudiants africains et si vous avez un jour la curiosité d'ouvrir de dialogue, ben vous en rencontrerez qui ont une expérience de la chose. Soit ils ont vu faire une ordalie, soit ils en ont entendu parler, ou en tout cas ils ont vu des gens dont les mains brûlées portaient le témoignage de l'exécution de ces épreuves. Si vous voulez en voir, ben je vous conseille l'achat d'un livre qui vient de paraître à la fin de l'année 2013, édité par Raymond Verdier, Soizic Kerneïs. L'intitulé du livre, c'est Les justices de l'invisible, paru chez l'Harmattan. En annexe à ce livre, il y a un CD-ROM qui reprend les films réalisés par Raymond Verdier au Togo entre 1995 et 2011, hein, où on voit fonctionner continuellement le même type d'ordalie destiné au règlement du même type de litige. Bah, donc, la première chose à faire, et me semble-t-il, même pour un médiéviste, j'ai parfois un peu de mal à en convaincre mes collègues, mais même pour un médiéviste, la première chose à faire, c'est de ne pas en parler uniquement d'après des textes écrits et lointains qu'on ne comprend pas, mais d'aller regarder comment ça se passe, de se faire une idée de la question. Parce que ça marche, parce que ça fonctionne. Mais ça fonctionne dans une logique qui n'est pas du tout la logique de nos procédures, qui est une logique de procédure sans état. Alors, soit il n'y a jamais eu d'État, soit l'État est absent des régions ou des milieux sociaux où cela se passe, et donc il n'y a pas de police, il n'y a pas d'instrument de contrainte, il n'y a pas de juge en position d'autorité, et le procès se règle en réalité sur une parole. Et c'est ici tout l'intérêt de rapprocher le serment judiciaire et l'ordalie, parce que des deux côtés il y a exactement le même mécanisme, il y a une parole, parole qui est appelée à devenir une parole de vérité et à dénouer le litige, parole qui va être validée ou invalidée par la réussite ou l'échec d'une épreuve. On arrivera à porter le fer rouge ou on n'y arrivera pas. Mais cette parole et cette épreuve, et il s'agit bien d'une épreuve et non d'une preuve, soit dit en passant, Michel Foucault, dans quelques-uns de ses textes, dont les deux livres qui reprennent ses cours du début des années 80, mais ses cours des années 80 ont été publiés à la fin de l'année dernière, Le gouvernement des vivants et alors Mal faire dire vrai, donc les conférences qu'il avait prononcées au titre de la chaire Francky à Louvain-la-Neuve. Bon, et auparavant encore dans ses conférences de Rio sur la vérité et les formes juridiques, Michel Foucault avait en tout cas parfaitement bien vu ça. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui sur toute son analyse, mais il avait parfaitement bien vu ça. On est dans une logique d'épreuve et non pas dans une logique de preuve. Il y a une parole qui crée par elle-même la vérité judiciaire, pourvu qu'elle soit validée par une épreuve. Et dès lors, cette validation permet, cette validation de la parole par le serment ou l'ordali permet de créer la vérité judiciaire. Seulement, ces ordalies païennes, comme celles qu'on peut voir si on projette les films de Raymond Verdier, ces ordalies païennes sont très différentes des ordalies christianisées que nous avons connues dans notre Moyen-Âge. Alors, elles sont différentes. Pourquoi ? Parce que les dieux du paganisme ne sont jamais des juges. Ne sont jamais des juges au sens où nous l'entendons, au sens où nous nous représentons la fonction de juger. D'abord, ils sont nombreux. Ah, il y a des panthéons. Et à l'intérieur des panthéons, il n'y a pas de spécialisation judiciaire, si je puis dire. On peut en étudier beaucoup, on peut examiner le panthéon grec, le panthéon romain, le panthéon germano-scandinave, aller regarder ce qui se passe chez les Chinois, chez les Africains, etc. Mais en réalité, il y a de très nombreux dieux, de très nombreuses puissances surnaturelles, mais il n'y en a aucune qui est investi d'attributs, l'omnipotence, la capacité de modifier le cours attendu des choses, de faire que le feu ne brûle pas, comme surtout l'omniscience, la capacité de tout savoir de ce qui se passe dans le monde, et surtout, il n'y en a aucun dont la conduite soit absolument réglée par la poursuite d'une discrimination systématique du bien et du mal. Les dieux, en réalité, les mythologies ne nous les présentent jamais comme impartiaux. Athéna ne peut pas être impartiale vis-à-vis des Athéniens. Qu'est-ce que c'est que l'Iliade ? Finalement, c'est une histoire de conflit des hommes dans lesquels les dieux prennent, auxquels les dieux ne prennent part, mais chacun avec ses préférences. Hein. Aphrodite est du côté troyen, parce qu'il y a eu le jugement de Paris, etc. Donc, on ne rencontre pas dans les panthéons païens une entité qui se poserait réellement en juge impartial. C'est pourquoi les dieux, quand ils sont convoqués, sont d'abord toujours convoqués en groupe. Il n'y a pas une seule ordalie ou un seul serment qui se fasse par un seul dieu. On en convoque généralement plusieurs. Et quand on analyse de près le rituel, ils y interviennent comme caution et comme vengeur, mais non pas comme juge. Comme caution, c'est bien comme ça qu'on les invoque. Hein. Celui qui prête serment ou celui qui passe l'ordalie appelle en garantie telle ou telle puissance surnaturelle. Je le jure, ainsi m'aide Dieu et les saints, disait encore la formule rituelle du serment judiciaire en Belgique jusqu'au XIXe siècle. C'est une formule qui remonte au temps carolingien, qu'on rencontre partout dans le monde à peu près dans les mêmes termes. Hein. On n'invoque pas son juge, on invoque son garant au serment ou à l'ordalie. Mais ce garant, bien entendu, peut devenir lui aussi un vengeur, c'est-à-dire que si la parole est fausse, si le jureur compromet la divinité dans une parole fausse, la divinité compromise va se venger du sort qu'on lui a fait subir. Problème, elle se venge en aveugle. Hein. Elle fait sentir sa colère, mais elle a beaucoup de mal à ne faire sentir sa colère que sur la personne du coupable. Elle fait sentir sa colère sur le groupe entier, c'est le groupe entier qui est menacé. c'est l'histoire de la faute d'Œdipe qui est punie par la peste à Thèbes, hein, et cette, cette crainte d'un châtiment collectif à la suite d'un faux serment ou d'une ordalie, on la rencontre, ou d'une ordalie fausse, on la rencontre dans toutes les cultures qui pratiquent ce type d'épreuve. Bon, évidemment, on pourrait attendre un certain perfectionnement de l'opération à l'arrivée du monothéisme, parce que le monothéisme, lui, supprime toutes ces imprécisions que je viens de signaler, toutes ces approximations que je viens de signaler dans le fonctionnement des ordalies païennes. Le monothéisme, c'est l'idée d'un seul Dieu, désormais, il n'y en a plus une collection, un seul Dieu qui a précisément tous les attributs du parfait juge, puisque il est omniscient, il sait tout ce qui se passe dans le monde, il voit tout, il sait tout, même nos pensées les plus secrètes. Alors Dieu sait si la Bible le dit et si elle le répète de passage en passage, hein, c'est un de ses attributs principaux. Il est parfait maître de la discrimination du bien et du mal, c'est-à-dire que à la limite son intervention se passe de toute règle juridique préconstituée. Si on peut faire intervenir Dieu comme juge parfait dans le jugement, on va pas lui donner des règles préalables et on va simplement attendre que la vérité se manifeste avec la certitude que cette vérité sera, sera parfaite. Et enfin, son omnipotence, en fait, un thaumaturge est même le seul agent possible de tout miracle quel qu'il soit, y compris que l'eau ne rejette pas, que le poison ne tue pas, que le fer porté au rouge ne brûle pas. Seulement, le problème, c'est que ceux qui ont créé le monothéisme, on en cherche évidemment les racines du côté des Perses avec le culte d'Ahura Mazda et puis de très bonne heure bientôt devant l'expérience des Hébreux qui est la racine des trois grands monothéismes, islam, judaïsme et christianisme. Ceux qui ont conçu le monothéisme ont conçu un Dieu de justice parfait, mais ils nous ont dit attention. Attention, ce Dieu de justice, il n'est pas disponible. Vous ne pouvez pas vous en servir comme vous voulez. Sa justice, elle est transcendante. Elle s'exprime dans un autre monde, elle s'exprime dans l'au-delà, ou si elle s'exprime ici-bas, c'est à des conditions que les hommes ne peuvent pas mettre en place, les hommes ne peuvent pas dicter à Dieu sa conduite. C'est dans les recueils de la Bible qui composent l'Ancien Testament, la leçon du livre de Job. La justice est transcendante, c'est-à-dire que le besoin de justice des hommes, d'une part, et l'offre de justice céleste, d'autre part, sont en réalité deux valeurs qui ne se rencontrent jamais, parce que la justice divine s'exerce dans un monde qui est inaccessible aux hommes. Si on suit cette logique, la justice divine est transcendante, elle s'exprime dans l'au-delà. On peut essayer de la lire dans les événements d'ici-bas en se disant, finalement, les bons sont quand même toujours récompensés et les méchants punis. C'est l'idée d'une certaine théodicée, hein, une justice immanente qui se manifeste en ce monde. Mais elle n'est pas instrumentalisée dans la procédure, elle est destinée à rester toujours étrangère au règlement des litiges des hommes. Et cette position, c'est celle qui est suivie par le judaïsme. Il n'y a pas de jugement d'Yahvé. L'islam, on ne veut pas concevoir un jugement d'Allah. Ça ne veut pas du tout dire que l'ordalie soit inconnue dans le monde musulman, il y en a au contraire beaucoup, hein. Mais les ordalies qu'on rencontre dans le monde musulman ne sont pas des ordalies islamisées. Hein. Ce sont des ordalies qui sont pratiquées dans des sociétés en fait islamisées de manière très superficielle, et les puissances invoquées ne s'identifie jamais au dieu de l'islam. Les puissances invoquées, ce sont principalement les génies, les forces telluriques. En fait, l'islam fait très mauvais ménage, il fait ménage comme il peut, mais très mauvais ménage avec la pratique des ordalies. Et on peut en dire autant du christianisme oriental. Le christianisme oriental, donc toute la région de l'Est européen, c'est une ère dans laquelle on peut observer en effet des serments et des ordalies, mais pas de jugement de Dieu. À aucun moment le clergé n'accrédite l'idée que Dieu pourrait être utilisé comme ressort de la procédure. Dans le christianisme latin, il semblait que l'on soit parti dans la même direction. Les premiers siècles de l'Église ne témoignent de rien de tel. Et puis un changement s'opère. Un changement s'opère, c'est-à-dire que à l'aube du Moyen-Âge, apparaît alors une ordalie totalement christianisée sous la forme du jugement de Dieu, sous la forme du Judicium Dei. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un point sur lequel je me distingue des autres médiévistes ou des historiens du droit qui ont traité cette question. C'est-à-dire que leur approche a été en général, d'abord, de ne pas faire entre les ordalies païennes et la chrétienne la distinction très forte que je fais ici, de dire tout ça c'est un peu la même chose, mais ça relève de ce qu'on pourrait appeler les superstitions, la mentalité magique, enfin bien. Et ensuite, de supposer, sans d'ailleurs vérifier cette supposition, de supposer que ce serait le résultat d'une sorte de religiosité populaire, une pratique qui vient de la base, en quelque sorte, qui est diffuse, qui est étrangère à l'action des autorités. Et donc que les autorités, que ce soit les autorités ecclésiastiques ou les autorités laïques, qu'elles auraient pu choisir soit de tolérer, soit d'interdire, étant entendu que puisque le jugement de Dieu a existé, il faut bien qu'elles les aient tolérées, donc qu'elles auraient toléré cette pratique, pour diverses raisons, mais qu'elles ne l'auraient pas, en tout cas à aucun moment, ni encouragé, ni créé. Alors, la thèse que je soutiens est tout au contraire que le jugement de Dieu est une construction politique. C'est une construction politique qui a été tout à fait intentionnelle, qui est le fruit d'une politique du rite qui correspond à ce qu'on peut appeler le moment carolingien, et pour être tout à fait précis, entre 750 sacres de Pépin le Bref et 860 conflits sur la succession de la Lotharingie, il y a un siècle pendant lequel il y a eu un contexte tout à fait particulier, un contexte de pouvoir, d'emprise exceptionnelle du pouvoir laïque sur l'Église. À ce moment, littéralement, on peut dire que le pape est aux ordres, c'est le pouvoir franc qui mène la politique religieuse, c'est le pouvoir franc qui réunit les conciles, c'est le pouvoir franc qui amène les évêques à statuer sur des questions de dogme, comme on le voit par exemple au concile de Francfort en 794. Ce pouvoir a une politique d'unification par la liturgie, qui là est bien caractérisé. Les capitulaires et les clercs de l'entourage de Charlemagne ou de Louis le Pieux le disent. Il faut créer l'union des âmes, l'unanimitas. Unanimitas, c'est l'union des âmes. Et comment créer l'union des âmes? En diffusant la même liturgie partout, Et c'est ainsi que Alcuin, dans l'entourage de Charlemagne, procède à l'unification de la liturgie de la messe en imposant ce qu'on va appeler la liturgie romaine, en faisant disparaître les liturgies régionales qui s'étaient constituées auparavant. Politique du rite, c'est-à-dire, il faut créer l'unité des populations soumises à l'empereur par le fait qu'elles accomplissent les mêmes gestes et qu'elles donnent aux mêmes gestes la même signification, et on arrivera d'ailleurs à les unifier même au-delà des frontières politiques, parce qu'il n'y a rien qui se répand plus facilement que la liturgie. Et j'avance que ce qui s'est passé dans l'histoire du jugement de Dieu, c'est un épisode de cette histoire, de cette politique d'unification par le rituel liturgique, dont la ligne directrice est très clairement donnée par un capitulaire de 809, hein, qui dit les choses de la manière on ne peut plus nette, que tous croient au jugement de Dieu sans aucun doute. Hein. Omnes in judicium dei credant, absque dubitatione. C'est une espèce de dogme. C'est un dogme, en quelque sorte, c'est un article au credo catholique ajouté par la puissance impériale, et qui institue un idéal du jugement parfait. On va appeler Dieu au cœur de la procédure, et dès lors s'installera le règne de la justice, hein, dès lors le roi pourra devenir un roi de justice avec l'aide de la puissance divine mobilisée comme un ressort de la décision des procès. Bon, alors problème, comment faire venir Dieu au cœur du procès? Comment l'amener à trancher le litige? Ben, c'est un problème que les liturgistes vont aborder, et là, il y a toute une série de tâtonnements dont les sources nous ont conservé la trace, il y a une série d'hésitations. Mais le moment clé peut être daté. Hein. Je crois que l'histoire de la construction du jugement de Dieu est une histoire qui ne remonte pas du tout à la nuit des temps ou qui serait insaisissable par l'historien. L'historien a des sources et s'il les utilise, eh ben, il peut proposer des chronologies précises. Le moment clé se situe très exactement entre 824 et 827, moment d'une occupation militaire de Rome tout à fait particulière par Lothaire, le fils de Louis le Pieux, est le moment où se met en place une espèce de liturgie modèle du jugement de Dieu, liturgie modèle qui va par la suite se diffuser partout. C'est-à-dire que c'est une liturgie qu'on retrouvera, par exemple, en Angleterre, même si l'Angleterre n'est pas comprise dans l'Empire carolingien. Les rois anglo-saxons la recevront, la reprendront pour eux-mêmes, et on voit très bien comment elle a été appliquée en Angleterre. On la retrouve aussi, on a de bonnes sources, dans la Hongrie arpadienne du XIIe siècle. C'est le même schéma rituel qui suppose quelques temps forts, enfin, je m'en tiens aux grandes lignes, une messe du jugement, hein, une fois que le procès a été accompli et qu'on a décidé de le faire trancher sur une ordalie, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une ordalie par l'eau, d'une ordalie par le feu, d'une ordalie par les aliments, on se déplace à un siège qui est souvent d'ailleurs un siège épiscopal. Hein, le clergé est engagé dans l'opération, c'est la différence entre la chrétienté occidentale et l'orientale, même jusqu'au niveau épiscopal, on accrédite le jugement de Dieu. Il y a une phase qui est la phase de la messe du jugement, la missa judicii, c'est une messe particulière, si vous voulez, exactement comme il y a des messes du mariage, des messes de funérailles, des messes de te deum. Ben, il y a une messe du jugement pendant laquelle la liturgie est orientée vers l'exaltation de la justice divine. Et puis il y a la communion. Il y a la communion qui est distribuée notamment au justiciable, à celui qui doit passer l'épreuve, et au moment de lui donner la communion, le prêtre prononce les paroles suivantes. corpus et sanguis domini nostri sint tibi ad probationem odie. Donc que le corps et le sang du Christ servent à t'éprouver aujourd'hui, servent aujourd'hui à ton épreuve, ad probationem. C'est-à-dire que comment faire venir Dieu et vous commencez à comprendre pourquoi j'ai commencé par cette assimilation curieuse de l'Eucharistie et du jugement. Comment faire venir Dieu? Ben, en prenant comme paradigme du miracle ce que les théologiens de l'époque d'ailleurs appellent le miracle eucharistique, hein, le premier des miracles, et au fond le seul miracle que les hommes puissent accomplir, c'est-à-dire transformer les espèces de la messe, le pain et le vin, en corps et sang du Christ, et faire en sorte que cette présence divine qui transite par l'Eucharistie soit ingérée par le justiciable pour devenir l'agent de l'épreuve, la garantie de la divinité de l'épreuve. Littéralement, le justiciable mange son juge. Et cette manducation du juge est justifiée par la lecture littérale d'un passage de l'Épître aux Corinthiens, de la première Épître aux Corinthiens, où saint Paul dit tout à fait clairement, celui qui prend part indignement au repas du Seigneur, celui qui mange en état de péché, mange son jugement. Si on prend ce texte à la lettre, si on en fait une lecture, une interprétation tout à fait littérale, eh bien on a la justification théologique du jugement de Dieu, avec une assimilation parfaite de l'acte de juger, de la manifestation de la vérité judiciaire et de la transsubstantiation, c'est-à-dire de l'ingestion par le justiciable de la matière divine, hein, dans une conception du sacrement qui est, on a parfois dit, une conception métabolique du sacrement, hein, littéralement, conception qui est caractéristique du premier millénaire de l'ère chrétienne. Seulement, les choses vont changer, donc cette ordalie va se répandre partout, et cette croyance dans le jugement de Dieu va se répandre partout dans l'Europe occidentale. Mais les choses changent, les choses se transforment principalement au XIIe et au XIIIe siècle, dans la première moitié du XIIIe siècle, chronologie franco-anglaise surtout, ben, je centre surtout l'analyse sur l'Angleterre et la France, les autres régions d'Europe ont des chronologies comparables mais un peu décalées, avec des changements dans l'ordre de la procédure. Changement qui se manifeste par une contestation de plus en plus grande de l'ordalie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire du miracle judiciaire organisé par les hommes? On revient à des conceptions hostiles qu'on avait déjà vues d'ailleurs antérieurement à l'aube du monothéisme. Réaction anti-ordalique qui débouche sur une condamnation de principe en 1215. Le quatrième concile de Latran de 1215 interdit la participation du clergé au jugement de Dieu, et donc il prive l'ordalie de sa caution ecclésiastique. Et puis l'ordalie disparaît rapidement, au XIIIe siècle. En même temps, changement dans l'ordre de la procédure, c'est-à-dire que la période qui précède immédiatement l'interdiction formelle de l'ordalie est la période de gestation des deux systèmes, common law et procédure romano-canonique. Common law, ce sont les grandes réformes de Henri II, je vais y revenir succinctement. Procédure romano-canonique, c'est l'expérimentation qui se fait d'abord à Rome, qui se fait d'abord dans la cour pontificale, l'expérimentation d'un autre type de procédure dont en réalité toute la procédure actuelle est dérivée, toute notre procédure est dérivée. Mutation dans le champ de la procédure, et mutation aussi dans le champ de la théologie des parlements, de la théologie des sacrements. Les deux transformations sont synchrones et ce n'est pas du tout fortuit. Cette seconde moitié du XIIe siècle qui voit tous ces changements est aussi le moment où les théologiens s'attachent à préciser la notion de sacrement. Et d'abord en limite le nombre, en fixe le nombre aux sept sacrements qui deviendront les sept sacrements canoniques de l'Église. Auparavant, on est dans le flou. Est-ce qu'un simple signe de la croix, par exemple, est un sacrement ou non ? On pouvait le penser ou ne pas le penser, mais il n'y avait pas en tout cas de discipline ou de règles officielles sur cette question. Limitation à 7 des actes qui sont considérés comme aptes à conférer la grâce sacramentelle, c'est-à-dire ce don divin, cette faveur divine qui s'infuse dans l'âme de celui qui reçoit le sacrement et qui le prépare, qui met sur le chemin du salut. Mais en même temps, les théologiens développent une réflexion très approfondie, plus approfondie sans doute qu'elle ne l'avait jamais été, sur la notion de vérité. On rencontre à cette époque un très grand nombre de textes qui s'intéressent à cette question. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ces textes occupent une place sans cesse croissante dans la réflexion des intellectuels. Bon, attention, commençons par préciser ce que la vérité n'est pas, ou plus exactement ce qu'elle n'est pas encore, au XIIe et au XIIIe siècle. Ce qu'elle n'est pas encore, c'est l'idée de la correspondance entre un énoncé et le réel. Cette idée-là, c'est une idée qui va apparaître, mais seulement à la fin de la période scolastique, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, elle commence à apparaître avec saint Thomas, et elle permet, à partir du moment où elle apparaît, elle permet l'idée d'une validation du discours par l'extérieur. Si je dis le soleil tourne autour de la Terre, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien correspondance entre la proposition et le réel auquel se rapporte la proposition? Bon. Jusqu'au milieu du XIIIe siècle, nous ne sommes pas encore entrés dans cet ordre de réflexion. Nous sommes dans un tout autre ordre de réflexion. La notion de vérité est pensée, dans une perspective tout à fait classique de la théologie, comme la correspondance entre une chose, que cette chose soit d'ailleurs aussi un discours ou une action, la correspondance entre une chose et le dessein de son créateur. Ça, c'est une théorie que saint Anselme avait longuement développée et qui est reprise par tous les théologiens. Un feu est un vrai feu quand il chauffe, parce que le dessein du créateur est que le feu procure de la chaleur. Il faut donc, lorsqu'on examine les vérités, ou alors, autre exemple donné par saint Anselme, un homme est vrai lorsqu'il aime son prochain, parce que le Créateur, la morale divine, impose l'amour du prochain. C'est-à-dire qu'on a en fait une vérité qui n'est pas une vérité de l'être, mais qui est une vérité du devoir-être. Les choses, les discours, les représentations sont vraies lorsqu'elles se plient à un ordre souhaitable des choses. Et cet ordre souhaitable ne peut être référé qu'à une vérité suprême, summa veritas, dit saint Anselme, laquelle vérité suprême est bien évidemment Dieu, lequel a dit, il suffit pratiquement de suivre l'évangile, je suis la voie, la vérité et la vie, ego sum via veritas et vita, évangile de saint Jean, la vérité suprême c'est le Christ, et toutes les vérités ne peuvent être pensées, aucune vérité ne peut être pensée sans référence à cette vérité suprême, évidente pour tous. Et dès lors, comment mener une réflexion sur le rite sacramentel? La réflexion des théologiens s'attache beaucoup moins aux choses de la nature qu'aux actions rituelles. Qu'est-ce qui est vrai dans le rite du sacrement? Qu'est-ce que ça veut dire que le Christ est réellement présent dans les espèces, le pain et le vin de l'Eucharistie? Eh bien, il développe une théorie qui est reprise pratiquement par tous les théologiens de la deuxième moitié du XIIe et du premier XIIIe siècle, et même d'ailleurs au-delà, c'est d'ailleurs toujours la théologie officielle de l'Église catholique, une théorie qu'on peut appeler la théorie de la double vérité du sacrement. Analysé en particulier par un très beau livre d'Irène Rosier-Catac, paru en 2004, la parole efficace. Qu'est-ce que c'est que la double vérité du sacrement? Eh bien, en réalité, il y a deux niveaux de vérité dans le sacrement, mais deux niveaux de vérité qui sont indépendants l'un de l'autre. Il y a un niveau que j'appelle une fois pour toutes le niveau 1, qui est une vérité intrinsèque, inhérente au rite. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que l'Eucharistie soit administrée par un prêtre indigne. C'était l'hypothèse qui était signalée par le juge de Chachia dont je vous citais les propos tout à l'heure. On peut avoir un prêtre qui se conduit de manière abominable, il a passé la nuit du samedi au dimanche dans un lupanar, il s'est même battu à coups de couteau le dimanche matin, il n'a pas le temps de se confesser à un autre prêtre, et cependant il doit dire la messe. Eh bien, peu importe, à condition que le rituel soit respecté, c'est-à-dire que ce soit un vrai prêtre, donc qu'il ait reçu les ordres, que ses mains aient été imposées par un autre prêtre qu'il avait lui-même reçu de quelqu'un qui, etc., etc., c'est-à-dire qu'il s'inscrive dans une tradition continue de transmission du sacerdoce depuis les apôtres, donc s'il a reçu les ordres de manière correcte, et s'il exécute le rituel de manière correcte, c'est-à-dire s'il prononce clairement la prière eucharistique, ceci est mon corps, ceci est mon sang, par le simple fait qu'il prononce la première des deux paroles, diront les clercs, hoc est corpus meum, donc la deuxième parole est un rappel de la première, mais le Christ est présent et dans le pain et dans le vin, lorsque la première des deux formules est prononcée, il y a une vérité intrinsèque au rite qui s'impose à tous, et qui permet la distribution de l'Eucharistie, c'est-à-dire qui permet de répandre parmi les ouailles le bénéfice du sacrement, le bénéfice de cette grâce divine qui se diffuse. Le rituel fonctionne, comme diront les théologiens, ex opere operato, par le simple fait que l'œuvre a été accomplie, donc le rituel est efficace en lui-même, ou bien, et ils diront aussi autre formule non moins intéressante, la parole du prêtre efficit quod significat, elle effectue ce qu'elle signifie, c'est la parole efficace par excellence, dont nous sommes quelque chose comme 800 ans avant Austin, mais les théologiens ont déjà défini ce qu'Austin appellera l'acte performatif, l'acte qui crée par lui-même ce dont il parle, et comment créer quelque chose de plus admirable que la présence divine en ce monde. Seulement, bien entendu, à côté de ce niveau 1 de vérité intrinsèque du rite, ou en dessous de ce niveau 1, il y a un niveau 2, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'extérieur. Ce prêtre qui dit la messe est en état de péché mortel, il accomplit un sacrilège, etc. Les ouailles, parmi les ouailles, certaines peuvent être également en état de péché mortel. Donc là, à ce point de vue-là, le rituel ne fonctionne pas comme il faudrait, c'est-à-dire que la grâce ne se transmet pas exactement, il y a une fausseté qui apparaît dans la transmission de la grâce divine. Seulement, ce qui importe, c'est que la fausseté extrinsèque ne corrompe jamais la vérité intrinsèque du rite. Alors, est-ce que cette théorie de la double vérité du sacrement peut nous fournir une clé pour l'explication de l'histoire de la vérité judiciaire? Évidemment, oui. Je veux dire, à la suite du propos que je tiens maintenant et de le soutenir. Évidemment, oui, parce que au moment où s'opère la séparation de la common law d'une part et de la procédure romano-canonique, en réalité, les attitudes sont complètement différentes. La common law perpétue les formes anciennes de la procédure, même si elle les rhabille autrement, même si elle les rhabille de neuf, alors qu'inversement, la procédure ecclésiastique, celle qui est élaborée d'abord dans la cour pontificale, la procédure ecclésiastique déconnecte complètement l'ordre de la vérité judiciaire et l'ordre de la vérité rituelle en général. Alors, qu'est-ce qui se passe en common law ? Mais en common law, on assiste dans cette seconde moitié du XIIe siècle, on assiste à la naissance du jury, qui devient la manifestation de la vérité par excellence dans la procédure de common law, le jury trial, l'épreuve par jury, aussi bien d'ailleurs dans le champ civil que dans le champ pénal. Alors, les origines du jury anglais, les origines historiques du jury anglais ont stimulé beaucoup de recherches et on a pas mal de théories explicatives des raisons pour lesquelles il émerge quelque part et pour lesquelles il émerge là plutôt qu'ailleurs, soit. Mais il y a en tout cas une lecture de l'origine du jury qui me paraît absolument incontournable et que d'ailleurs, je ne suis vraiment pas le seul à la faire, beaucoup d'autres historiens ont fait la même. Enfin, je pense à Paul Iams notamment en Angleterre ou James Whitman aux États-Unis qui a publié il y a quelques années un livre sur les origines du doute raisonnable et qui cherche un peu, comme je le fais d'ailleurs, les origines du doute raisonnable dans la procédure de common law du côté de la théologie de la croyance et du doute et de la responsabilité. Tous ces auteurs, et bien entendu je m'inclus, tous ces auteurs pensent que, montrent, enfin, je crois que d'ailleurs il n'y a pas à en douter, que le jury est en réalité un substitut mécanique de l'ordalie. Au civil, on assiste à la naissance des quatre premières actions de common law sous Henri II, et les forms of action qui sont définies pour ces quatre premières actions, qui sont toutes des actions réelles, les forms of action mènent au jugement du jury. Alors, au pénal, les deux grandes ordonnances pénales de Henri II, de Clarendon et Northampton, prévoit encore un usage systématique d'une ordalie, l'ordalie des eaux froides, mais précisément tout de suite après 1215, ça s'arrête, l'interdiction du latran est reçue du jour au lendemain en Angleterre, et à ce moment-là, on a un jury de jugement qui se substitue à l'ordalie. Donc, je crois que c'est à peu près clair pour tout le monde. On a une procédure qui perpétue les formes de la procédure archaïque, ou qui la perpétue sans rupture par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire qu'il y a le procès qui est une longue phase préparatoire, qu'on appelle en anglais les pleadings, à ne pas traduire par plaidoirie, mais il s'agit des discussions sur les points de droit qui préparent le passage, d'ailleurs toujours facultatif, à la deuxième phase du procès. La deuxième phase du procès étant le trial. Et le trial, il y a encore plusieurs formes de trial dans la common law ancienne, mais enfin, l'épreuve reine, c'est tout de même l'épreuve par jury. Alors je dis épreuve parce que trial vient de l'ancien français trier, mais trier, livrer est le bon grain, et au sens d'ailleurs conservé par l'anglais moderne to try, hein, c'est-à-dire essayer, mettre à l'épreuve. Le trial, c'est le moment où on décide, c'est l'épreuve de vérité, c'est le moment où on décide qui a raison et qui a tort. Hein, et ça, c'est l'affaire du jury, le juge fonctionnant comme instance préparatoire. C'est-à-dire qu'on a une épreuve de vérité, le verdict, le veredictum, la parole de vérité des jurés. On a un verdict qui tombe du ciel, exactement comme tombait du ciel autrefois le jugement de Dieu. C'est une vérité qui vient de l'extérieur. Le jury se retire pour délibérer et puis il prononce... Il valide l'action si nous sommes au civil, ou il l'invalide, ou il prononce la culpabilité ou l'innocence si nous sommes au pénal. Mais cette épreuve de vérité, elle est terminale et non pas initiale comme dans la procédure romano-canonique. Dans la procédure romano-canonique, qui reste la nôtre, la mise en évidence des faits précède toute autre opération. La mise en évidence des faits, c'est l'instruction dans la phase préparatoire, la reconstitution dans le procès pénal commun, et cette mise en évidence des faits, elle doit précéder le jugement, lequel postule alors l'intervention de la règle juridique, l'intervention de ces opérations, que sont la qualification et l'application de la norme juridique. Dans la common law, ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans la common law, tout ce qui se fait pendant la première phase du procès se fait sous réserve d'une manifestation de la vérité qui sera une manifestation terminale. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de choses entre parenthèses, on peut avancer des affirmations, les parties avancent des affirmations sur ce qui s'est ou sur ce qui ne s'est pas passé, on peut avancer des éléments de preuve, donc anglais evidence, à traduire évidemment le plus souvent non pas par preuve mais par éléments de preuve, hein. On avance éventuellement des éléments de preuve dont certains sont recevables et dont d'autres sont irrecevables, et précisément la tâche du juge est de déterminer ce qui est discible et ce qui n'est pas discible en justice, et on s'achemine vers un grand moment terminal qui sera le moment de manifestation de la vérité, qui sera le verdict du jury. Seulement, ce verdict du jury, il est en fait toujours facultatif. Il est resté aujourd'hui comme il l'était au Moyen-Âge. C'est-à-dire que de la façon dont les choses se mettent en place, chacun va faire des supputations sur ce que le jury pourrait décider. Hein. Est-ce que, compte tenu de la façon dont va se mettre en scène le débat, la probabilité la plus forte est que le jury se prononce dans un sens ou dans un autre. Et sur la base de ces anticipations, sur la base de cette stratégie, on va essayer de négocier une transaction. Alors, transaction pénale sur la peine, transaction au civil, sur les intérêts des deux parties, de sorte que la plupart des procès ne vont en réalité pas jusqu'au trial, ne vont pas jusqu'à l'épreuve finale de vérité, mais se règlent avant qu'on n'y soit jamais arrivé. Bon, quelques chiffres sur les années 2005-2006. Aux États-Unis, la proportion de procès civils qui se réglaient par une transaction était de 98,3%, hein, ce qui fait que 1,7% seulement des procès allaient jusqu'au jury. Bon, je rappelle qu'aux États-Unis, le droit au jury est un droit constitutionnel, hein, c'est-à-dire que même au procès civil, un droit subjectif élémentaire et constitutionnel de tout justiciable américain est de faire appel au jury. Bon, on n'y faisait plus appel, mes chiffres datant d'il y a quelques années, on n'y faisait plus appel que dans 1,7% des cas. Ce qui, par certains côtés, d'ailleurs, n'est pas si peu que ça. Bon, comment est-ce que ça fonctionne? Mais je peux peut-être évoquer un procès qui n'est pas médiéval du tout, qui est tout à fait présent et en plus que chacun a en tête, donc ce qui me facilitera les choses, mais qui montre très bien la continuité des formes médiévales, c'est tout simplement l'affaire Strauss-Kahn. Hein. L'affaire Strauss-Kahn, c'est une suite de deux procès, hein, un premier procès pénal et un premier procès et un second procès civil. Deux procès dont aucun ne va jusqu'au jury, hein, parce que dans le procès pénal, l'inculpé a choisi de plaider non coupable, c'est-à-dire qu'il fait jouer son droit constitutionnel. Mais alors là, c'est le procureur qui, après avoir réuni des éléments divers et variés, et après avoir préparé un éventuel trial, donc une éventuelle phase terminale du procès, se dit, il y a très peu de chances je puisse réunir 12 jurés dont aucun, puisqu'il faut l'unanimité, dont aucun n'éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'intéressé, donc j'abandonne. Dans le procès civil, on s'affronte exactement d'ailleurs sur le même terrain et le défendeur pourrait parfaitement faire jouer le même droit au jury, mais il choisit tout autre chose, et cela débouche sur une transaction qui est secrète, et qui se solde par l'indemnisation de la prétendue victime. Ce qui veut dire, si vous y regardez bien, que ces deux procès reposent l'un et l'autre sur des présomptions. On ne va pas vraiment jusqu'à l'épreuve de la vérité, mais il y a des deux côtés une présomption qui détermine la résolution du litige. Seulement, ces deux présomptions sont absolument contradictoires, puisque, au champ pénal, ce qui l'emporte, c'est la présomption d'innocence, qui n'a pas été renversée compte tenu des circonstances de l'espèce, et au champ civil, c'est tout à fait l'inverse, c'est une présomption de faute, puisque la transaction se solde par l'indemnisation de la prétendue victime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hein, à un moment donné, aussi bien dans le procès pénal que dans le procès civil, on a cessé de s'intéresser à ce qui s'était réellement passé. On a cessé d'essayer de vraiment tout savoir de ce qui s'était réellement passé. Et en particulier, personne n'a demandé à Dominique Strauss-Kahn sa version des faits. Bah, ça, c'était la grande frustration du journaliste français. On ne sait jamais sa version des faits. Que s'est-il passé dans cette chambre? Et pourquoi Dominique ne s'est-il jamais exprimé? Ben, il ne s'est jamais exprimé parce que c'est sa vérité à lui. Ce n'est pas la vérité judiciaire. Et que sa vérité à lui est une vérité de niveau 2. C'est la vérité dans laquelle le rituel n'entre pas. Le rituel judiciaire de Common Law est un rituel judiciaire qui s'efforce de construire une vérité de niveau 1, hein, c'est-à-dire en utilisant les paroles et les éléments qu'il est permis ou qu'il est interdit de produire, et en aboutissant à une création de la vérité judiciaire pour laquelle on peut pratiquement transposer mécaniquement les formules des théologiens. Une parole comme « je plaide coupable », une parole comme je plaide coupable est exactement une parole efficace dont on peut dire efficit quod significat, hein, elle effectue ce qu'elle signifie, elle crée par elle-même l'état judiciaire de culpabilité, exactement d'ailleurs comme un verdict de culpabilité crée exactement la même situation, il engendre la culpabilité. Il engendre une vérité incontestable, incontestable en justice. Celui qui a choisi de plaider coupable ne peut plus, et ça c'était déjà une règle de l'ordonnance de Clarendon d'Henri II de 1166, ne peut plus se déjuger ce qui serait en quelque sorte changer de version. Il a, par une parole efficace, il s'est lié à son choix de plaider coupable. La vérité qui sort de ces paroles est un absolu, et c'est, si vous y regardez bien, non pas une vérité factuelle, mais une vérité juridique et une vérité factuelle intriquée. On ne distingue pas le fait et le droit. Se déclarer coupable, plaider coupable, c'est accepter un fait qualifié. Dire que en common law le juge traite les questions de droit et le jury les questions de fait, c'est une facilité de langage, hein. C'est un regard du civiliste, c'est un regard du juriste continental sur la procédure anglaise. En réalité, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui parce que les règles de la procédure devant le jury se sont beaucoup affinées. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui que ça ne l'était hier, mais fondamentalement, le jury se prononce sur une question qui entremêle fait et droit. Bon, accessoirement, la notion de qualification est impossible à rendre en anglais juridique. C'est une notion qui est extrêmement familière aux juristes continentaux, mais qui ne passe pas la Manche et encore moins l'océan. Hein. Parce que c'est une notion dont on n'a jamais eu l'usage dans le système de common law. Et c'est une vérité absolue, c'est-à-dire qu'on peut montrer aussi, de nouveau ça nous emmènerait sur de nombreux chemins, on peut montrer aussi que le jury est en réalité investi de la présomption d'omniscience dont pouvait se prévaloir initialement Lord Ali. Le jury a un savoir intime de la cause. Ce qu'on a traduit d'ailleurs en français lorsque le jury a été importé par la législation révolutionnaire et napoléonienne, ce qu'on a traduit par l'idée d'intime conviction. Il n'est pas lié à une règle de preuve en particulier, il a une connaissance de la cause qui est en quelque sorte immédiate. C'est une révélation au sens religieux du terme. C'est-à-dire qu'en fait, La common law, c'est une justice qui aurait répondu tout à fait, s'il l'avait pressenti, qui aurait répondu tout à fait au souhait du juge de Chachia. Hein, une vraie religion, une religion qui ne doute jamais d'elle-même. D'ailleurs, le juge de common law n'a jamais à se tracasser. Hein. Le juge de common law n'a jamais à se tourmenter, se ronger, se dire « tu n'es pas digne, tu es la proie de toutes les misères humaines ». Et sa conscience n'est pas chargée de tout ce qui charge le juge continental. C'est le ministre d'un rituel. Hein. La seule chose qu'il pourrait se dire, s'il avait des doutes, c'est est-ce que tu as bien mené la procédure? Est-ce que tu as ménagé l'égalité des parties? Est-ce que tu as bien accepté tout ce qu'il était permis de produire en justice? Et est-ce que tu as bien rejeté tout ce qu'il était interdit d'y produire pour ne pas influencer la conviction des jurés? Hein. Mais fondamentalement, le juge de common law reste le ministre d'un rite, hein, et c'est pourquoi chez Achia, aurait d'abord eu beaucoup de mal à s'exprimer en anglais. Je ne sais pas très bien comment les traducteurs anglais s'y sont pris à partir de d'un texte de ce genre, mais il n'aurait pas pu dire la même chose dans un pays de common law, parce que je crois que ça aurait été incompréhensible. L'effet littéraire aurait été tout à fait raté. Hein. Bien entendu, il est clair que le jury, l'intervention du jury n'est plus un sacrement, quoique l'Église continue toujours de qualifier cela du terme de sacramentalia, des sacramentaux, c'est-à-dire des choses qui sont du point de vue du droit catholique des quasi-sacrements, mais en l'occurrence le quasi-sacrement fonctionne exactement comme fonctionnait le sacrement originel. Ce sur quoi je conclurai, et ce qui est peut-être finalement difficile à accepter, en tout cas j'ai eu au fond beaucoup de mal à m'en rendre compte et à entrer dans le schéma intellectuel qui permettrait de comprendre la chose, c'est que le point de vue laïque sur la justice, hein, le point de vue laïque sur la justice que déplore le juge Chachia, et que n'a pas à déplorer le juge de common law, il est très serein à cet égard. Le point de vue laïque sur la justice qui prive la justice romano-canonique de cette force religieuse que conserve la common law, eh bien c'est celui de l'Église en réalité. La laïcisation, la première laïcisation qui est à la base de la création de notre système juridique et judiciaire, la première laïcisation, c'est une désacralisation, mais qui en fait a été une désacramentalisation. Le découplage du sacré et du judiciaire, qui a été opéré par les autorités de l'Église elle-même, au XIIe siècle, au moment où se mettent en place ces repères que je viens d'évoquer. Je vous remercie de votre attention. Thank you.